peut démarrer là.
Ah oui, je sais. J'ai juste appuyé sur les
Bien. En attendant que le diaporama se mette en route, j'avais à cœur et préoccupation personnelle parce que la parole de Dieu, elle me touche moi premièrement et puis je ne peux pas transmettre, partager quelque chose par lequel je ne suis pas touché moi-même. Alors ce n'est pas intentionné, mais c'est parce que ça me réjouit, c'est parce que ça me nourrit que j'aimerais vous partager ces quelques mots. En partant du prophète Jérémie, qui va venir, mais c'est ce premier
j'ai un problème, là.
Qui va arriver.
Quelqu'un se connaît ? Allô, docteur ? Oui, ça ne s'affiche pas sur l'écran. Tu sais comment on fait ?
C'était celui-là.
Que cela s'affiche là.
Ah, c'est pas ça pour projeter.
Non, je comprends.
Non, ça va. Ça met sur l'écran.
Ah, la technique.
Ah oui, on a besoin. Je crois. On a besoin.
Lorsqu'on pense à un prophète, souvent on s'imagine à quelqu'un de glorieux, quelqu'un de magnifique, d'admiré. Mais quand on découvre les prophètes dans la Bible, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, c'est pas forcément un métier très agréable et très reconnu. Les prophètes qui sont pas beaucoup appréciés parce que le message que Dieu les envoie annoncer, c'est pas forcément pour faire plaisir à tout le monde. C'est souvent pour essayer de ramener le peuple à coup de même de menaces et d'annonces de jugement, et le peuple n'aime pas tellement entendre ça. Et puis Jérémie, ben on va le mettre dans une citerne sans eau et il va enfoncer dans la boue. Voilà le résultat de ce que entraîne le fait d'être prophète. Des fois on aimerait être prophète, pouvoir annoncer des grandes choses, puis épater la galerie. Eh bien, les prophètes de la Bible, ils avaient la vie plutôt dure. Et ce prophète Jérémie, il se plaint auprès de Dieu. Il vient de lui dire « Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. » Il accuse en quelque sorte Dieu et Dieu lui répond ceci. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. » Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais c'est à toi, ce n'est pas à toi à retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. C'est surtout cette phrase que j'ai mis un peu plus épaisse là. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ça m'a impressionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Dieu serait peut-être un Dieu qui sépare? On aime mieux un Dieu qui unit d'habitude. Et pourtant, d'après ces paroles, quand Dieu parle, sa bouche va produire des séparations. Il va séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ça me fait penser dans mon activité, j'arrive quelquefois à recevoir des colis. Un colis, c'est généralement des cartons standards. Et dans ce carton, il y a une chose qui est précieuse. Une pièce de montre, souvent en or. et elle est noyée dans du remplissage, quelque chose qui est sans valeur. Et ce qui m'incombe, c'est d'ouvrir le paquet, de sortir, de séparer ce qui est précieux du remplissage, de l'emballage. Cet emballage, c'est souvent du papier bulle, c'est de l'air emballé dans du plastique. Ça n'a pas de valeur, mais c'est là et l'objet précieux est dedans. Ce qui est sans valeur ou vil, parce que le sens, ce n'est pas forcément que c'est sale ou que c'est mauvais, mais ça ne vaut rien, c'est du remplissage. Et là-dedans, il y a des trésors à aller chercher, des trésors à séparer. Et Jérémie est appelé à faire ce travail, à mettre en valeur, à faire ressortir les choses précieuses. Alors ma question, il y a deux aspects là qui m'ont intrigué. D'une part, est-ce que Dieu est un Dieu qui sépare? Et d'autre part, qu'est-ce qui est précieux? Alors si on regarde déjà un peu ce Dieu qui sépare, eh bien, on peut aller tout au début de la Bible, il y a trois phrases, et ensuite on voit Dieu qui apparaît et qui sépare. Ces trois premières phrases, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'abîme, et puis maintenant voilà ce que Dieu apparaît. Et la bouche de Dieu se manifeste, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelqu'un, un peu sous forme de boutade, disait, moi je crois au Big Bang. Regardez, Dieu dit que la lumière soit, et bang, la lumière est là. Mais quand Dieu parle, la chose doit s'exécuter, la chose doit venir en existence. Et voilà une première séparation. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et le mot séparer apparaît ici. Deuxième étape, il va séparer, juste un peu plus loin, il séparera les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus. Et cela fut ainsi. Donc Dieu, premièrement, il apparaît avec sa lumière et il sépare les ténèbres de la lumière. Et ensuite, il sépare ce qui est d'en bas de ce qui est en haut. Et puis, cette deuxième séparation va en entraîner une troisième, où Dieu va séparer l'eau du sec, et le sec va apparaître. Et ces différentes séparations vont permettre à la vie d'apparaître. On voit ici que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence qui peut se reproduire, et des arbres fruitiers qui vont devenir de la nourriture, et la vie apparaît et tout est préparé pour que recevoir l'homme. C'est un peu ce qui se passe dans nos vies aussi. On est dans les ténèbres, on est dans tohu-bohu, on ne sait pas où on en est, où on va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Et Dieu amène la lumière. Et la lumière, ce n'est pas seulement quelque chose de bienfaisant, mais c'est quelque chose de puissant qui va chasser les ténèbres et qui va éclairer juste dans les plus sombres recoins de nos vies ce qu'on voudrait maintenir caché, ce qu'on ne voudrait pas qu'il vienne, eh bien Dieu le met en lumière. Mais c'est dans le but de pouvoir séparer ce qui est en bas de ce qui est en haut, de séparer ce qui est de lui et ce qui est de la terre, et amener un terrain sec pour que la vie puisse apparaître. Et c'est ce qui va se produire dans la vie de celui qui vient au contact avec la parole de Dieu. Et cette idée de séparation, on va la retrouver tout au long de la Bible. Dieu va appeler Abraham, qui va être appelé à se séparer de sa parenté, de son pays, de partir. Et j'ai mis juste quelques points de séparation qui me paraissaient juste noter quelques étapes, parce que c'est rempli dans la Bible. le bien contre le mal, ce qui est recommandable de ce qui n'est pas recommandable. Vous serez saint pour moi, car je suis saint, moi. L'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Déjà dans le Lévitique, le premier livre de la Bible. Et ceci va se prolonger jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier, où on voit qu'il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer, de nouveau séparation, les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc il faut, c'est clairement indiqué que non seulement le paradis existe, mais l'enfer existe aussi. Et puis, il y a des séparations plus fines. Ça va tellement pointu, la parole de Dieu pour séparer, qu'on a ce verset dans Hébreux 4 qui nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On a de la peine à séparer l'âme de l'esprit. Même, il y a pas mal d'interprétations qui disent c'est la même chose, un peu l'âme, un peu l'esprit. Désolé, mais la parole, elle nous permet de séparer ce qui est de l'âme, ce qui est de nos sentiments, de notre volonté, de notre raisonnement, permet de le séparer de ce qui est de l'esprit de Dieu. Bien que ça soit très proche l'un de l'autre et que quelquefois ça s'interpénètre, ça paraît être un peu la même chose. Mais la parole de Dieu est si fine, si puissante qu'elle va jusque-là. Maintenant, il y a encore une autre séparation. Donc, c'est là que j'y tiens beaucoup. Ça me touche tellement ces temps. C'est la diapo suivante. Si. Oh, d'accord. C'est ce tableau de la colline de Golgotha. Là, il y a trois croix. Et il est bien dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus est au milieu. Alors, ça nous montre que Ésaïe 53 a prophétisé qu'il serait mis au rang des malfaiteurs, qu'il serait considéré comme eux. C'est vrai aussi que si Jésus est là, c'est à ma place qu'il est là et qu'il va être considéré comme pécheur que je suis et pour mon salut. Mais il y a un aspect là, puisqu'on parle de séparation, où on voit deux brigands qui sont les mêmes. J'imagine facilement qu'ils faisaient partie d'un même groupe de gangsters, qu'ils ont fait leur sale coup ensemble. Le brigand va même dire qu'ils ont commis des crimes ensemble. Une fois c'est un qui a planté le couteau, une fois c'est l'autre, mais c'est exactement les mêmes. Ils sont pris ensemble, ils sont jugés ensemble, ils sont condamnés ensemble, la même chose. Ils sont crucifiés ensemble, mais là, entre les deux, il y a Jésus qui va créer une séparation. Un des deux brigands va réaliser que Jésus il est le fils de le roi des Juifs. Il est le roi, il va réaliser sa seigneurie et il va l'appeler au secours. Et là, si ce n'était pas Jésus qui le disait, on aurait de la peine à l'admettre. Ce brigand qui a encore toute sa culpabilité sur lui, qui est en train de payer son prix, Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a jamais été baptisé. Il n'a jamais pris le pain et le vin. Et puis Jésus lui dit, attends, d'abord, donne la preuve de quelque chose. Eh bien, quand Jésus est là, il sépare et il permet de faire la différence entre ceux qui croient en lui, ceux qui l'acceptent, qui se tournent vers lui, et ceux qui ne l'acceptent pas. Un, le jour même, va être dans le paradis, et l'autre, il va être séparé de Dieu. Cette fois, dans les évangiles, Jésus va dire, parler de ce lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. On ne doit pas non plus négliger d'être averti qu'il y a des conséquences. C'est un choix qu'on doit faire, mais si on se tourne vers Jésus, qu'on reçoit Jésus dans sa vie, alors le salut nous est accordé. Maintenant, pour la séparation, on a vu un peu que Dieu est un Dieu qui sépare, mais il sépare de quoi et qu'est-ce qui est précieux? Dans nos vies, on a souvent des choses qu'on trouve très précieuses, d'autres moins, c'est pas forcément les mêmes pour tout le monde, mais ici, il s'agit de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle précieux? Il y a quelques points, il y en a d'autres, mais il y a quelques points où vraiment le mot précieux est cité. Celui-ci ici. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'il y renonce à jamais. Inutile d'essayer de se sauver par des bonnes œuvres, d'essayer de mériter le salut. C'est trop élevé, ça coûte trop cher, ce salut est trop précieux. Mais Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli justement à Golgotha, justement par sa vie, par son sang versé. Une autre chose qui est précieuse, eh bien, c'est le sang de Jésus qui nous permet, qui nous met en contact, qui nous met au bénéfice de ce rachat. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et ça, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Et l'apôtre Pierre, il a une appréciation, à cause de ses chutes aussi, une vraie appréciation du salut, du sang. Et il le qualifie de précieux. On peut aussi admettre et arriver à ce stade, quand on prend conscience de notre état de misère, notre état d'éloignement de Dieu, du mérite, du jugement de Dieu que l'on mérite, et qu'on est racheté par ce précieux sang, que ce sang est vraiment précieux. Et ce sang, eh bien, il nous accorde. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce sang, c'est quelque sorte une route qui nous permet d'accéder à ce Père Tout-Puissant et qui nous rend. Quand Dieu voit le sang de Jésus, il est favorable pour nous. Et ça nous permet de nous approcher de lui avec confiance. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et voilà, on arrive à ce Dieu qui non seulement sépare, mais ce Dieu qui est aussi uni, en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pas par nos mea culpa, c'est pas par. Ça suffit pas, le rachat est trop précieux, mais le sang est vraiment précieux parce qu'il permet d'acquérir, de recevoir la purification de tout péché. De tout péché, c'est écrit T-O-U-T, donc de chaque, n'importe quel péché, mais aussi de tous les péchés T-O-U-S. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà le sang, quelque chose de précieux qu'il faut séparer du remplissage, de tout ce qui pourrait être taper à l'œil, quoi, nous impressionner. Notre devoir, si on veut être prophète, c'est de parler comme Dieu et de mettre l'accent sur ce qui est vraiment précieux. Le rachat, le sang, nous permet d'être en contact avec les précieuses promesses. Ça aussi, c'est précieux. Quelle promesse ! La Bible contient énormément de promesses. J'en ai listé quelques-unes. C'est tout. Voilà, une promesse. Le Dieu de grâce, de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. C'est juste. Hein. Oui. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Perfectionner, ça veut dire réparer ce qui est abîmé. Affermir, c'est rendre stable. Dieu va arranger les choses qui sont boiteuses, il va nous rendre stable, affermir, il va nous rendre fort et il va nous rendre inébranlable, posé sur un fondement sûr, sur le roc, sur cette vérité de Jésus mort et ressuscité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce qu'on a fait des exploits, mais simplement à cause de l'œuvre de Christ, on peut la recevoir gratuitement et il ne nous reste plus qu'à remercier. Il y a d'autres promesses. Philippiens 1, étant assuré que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'au jour de Christ. Quelle promesse! Pas de souci, vous pouvez savoir que Jésus qui habite en vous cette vie, suite aux séparations nécessaires, va vous amener, nous amener jusqu'au jour de Jésus-Christ. Que cette œuvre va être achevée. Il y a la main de Dieu. Jean 10 encore. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Quelle promesse. Être dans la main de Dieu, dans la main du Seigneur et puis savoir que le Seigneur nous tient. Ce n'est pas nous qui tenons le Seigneur, c'est lui qui nous tient. Et puis en plus, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes un croyant, il est dans la main de Jésus et Jésus et nous, on est dans la main du Père, on a ces deux mains qui nous tiennent. Quelle certitude, quelle promesse. Et ensuite, il y a encore une autre chose qui est précieuse, c'est la foi. Tout ce que Dieu a accompli, on se l'approprie par la foi. Et cette foi est précieuse. Pierre, de nouveau, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cette foi, elle est précieuse. Mais ici, on ne sait pas toujours très bien si c'est la foi qui est précieuse ou si c'est l'épreuve. Mais avec le verset suivant de Jacques, il est dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc la foi éprouvée devient précieuse. La foi devient précieuse par l'épreuve. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir, de redouter ou de fuir forcément les épreuves et de ne pas s'étonner d'être éprouvé. Parce que notre foi a besoin d'être éprouvée et en étant éprouvée, elle devient solide, elle devient ferme et elle nous permet d'acquérir plus solidement encore les promesses et d'être fondée plus solidement sur ce rachat que Dieu nous a acquis. Encore une chose, puis après on va s'arrêter, qui est précieuse, que la Bible appelle précieuse. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, fermissez vos cœurs, car le Seigneur est proche. Le rachat qui est précieux, le sang de Jésus qui est précieux, les promesses précieuses, la foi éprouvée qui est précieuse, nous amène à porter du fruit, et ce fruit est précieux, pour le Seigneur lui-même. En fait, ce qui est précieux, c'est toutes ces choses précieuses, c'est compris dans une seule personne, dans la personne de Christ. Et ce qui est produit dans le croyant par l'œuvre de Christ, par sa parole, ça va produire du fruit à la gloire de Dieu. En quelque sorte, tout pour lui et rien pour nous. On n'est pas là pour notre propre gloire, pour notre recherche d'intérêt personnel. Et notamment dans Romains, il nous dit « Ne te vante pas, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Ce fruit, il est produit dans le sarment depuis la racine. C'est la sève, c'est la vie divine qui agit depuis les racines, qui va finalement produire du fruit, et tout ce fruit, ce sera à la gloire de Dieu. Alors n'ayons pas peur et avançons près du Seigneur, sachant que lui a toutes choses entre les mains. Je vous propose encore de prier. Père Céleste, nous te remercions parce que tu as accompli, tu as préparé un si grand salut, parce que tu nous as racheté ce salut à côté si cher, qu'il est tellement précieux et que nous voulons l'apprécier comme étant si précieux et ne pas nous attacher à juste ce qui nous entoure, à juste ce qui vient remplir nos vies, à tout ce remplissage. Seigneur, merci parce que tu nous as donné tes promesses, tu as versé ton sang. Les promesses, ce sont celles qui viennent de toi. Tu permets aussi des épreuves dans nos vies, mais c'est pour que fortifier cette foi qui devient aussi précieuse, de plus en plus précieuse pour nous. Et finalement, nous allons porter du fruit pour ta gloire, et c'est pourquoi nous te louons et nous t'adorons, nous te rendons toute la gloire aujourd'hui et puis dans nos vies à venir. Aide-nous, Seigneur, à porter les regards sur ce qui est précieux et à ne pas nous attacher à ces produits de remplissage que le monde voudrait nous proposer et que la société dans laquelle elle nous enveloppe. Seigneur, c'est toi qui es précieux. Et nous glorifions ton nom. Amen.
Amen.
Quel bouton ?
Avec ça.
Oui, alors.